la bienveillance, la pudeur peut-être, nous dicte, lorsque une introduction ou un culte nous ont fait du bien, d'aller trouver la personne à la fin et dire « Ah, j'ai bien aimé ce que tu m'as dit ou ce que tu nous as dit. » Eh bien voilà, pourquoi pas dire du haut de la chair « Merci à Onésime pour ces paroles qui font du bien, qui sont nourrissantes et que personnellement j'ai reçues comme venant directement du Seigneur. » Merci. Mes parents sont arrivés en France au cours du premier trimestre de l'année 1939. Ils étaient réfugiés politiques comme beaucoup d'autres Espagnols fuyaient le régime génocide du général Franco. On a appelé cet énorme flux migratoire, on a parlé de 500 000 personnes, on appelait cet énorme flux migratoire la « retirade ». La France d'alors, comme bien d'autres pays d'Europe, était en plein marasme économique et par conséquent pas vraiment apte à absorber une telle masse humaine. Cependant, les mines, et notamment les mines de fer et de charbon, était en grande demande de main-d'œuvre parce que déjà avait commencé la course à l'armement en vue de la Seconde Guerre qui était imminente. Alors depuis, les camps de concentration où ils avaient été assemblés, regroupés par milliers, par train entier, les Espagnols furent dispatchés dans de nombreux bassins miniers de France. Et c'est ainsi que mes parents débarquèrent dans la région d'Alès. Lorsqu'ils arrivèrent dans le village qui leur avait été désigné, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne furent pas les bienvenus. Souvent, pas toujours, mais à plusieurs reprises, il est arrivé que ma mère, en rentrant des courses, de l'épicerie ou de la boulangerie, et à laver son corsage, son pull ou sa veste parce que des crachats lui dégoulinaient dans le dos. Et puis, ce fut la guerre. Lorsque les tout premiers réseaux de résistance commencèrent à s'organiser, il est apparu à ceux qui allaient en être les responsables que l'expérience de guérilla dont bénéficiaient les anciens républicains espagnols pouvait s'avérer précieuse. Et c'est ce qui s'est passé. Mon père devint vite un résistant actif, chargé de missions importantes, souvent très, très dangereuses. Et à l'évidence, cela a beaucoup contribué à son intégration. Pourtant, une fois la guerre terminée, alors que tout allait mieux, obéissant à une nécessité impérieuse, une nécessité mystérieuse, mes parents ont peu à peu, sans planification particulière et très inconsciemment, mis en place pour eux-mêmes un code de belle et de bonne conduite. Un code de belle et de bonne conduite. Comme s'ils se sentaient observés, comme si en permanence ils devaient prouver quelque chose en s'enracinant sous le regard scrutateur des autres, ils ont élaboré une sorte d'éthique du comportement. En voici grossièrement tracé quelques bases. Petit A pour mon père. Obéissance et soumission à la hiérarchie. On ne se plaint pas. On ne revendique pas. On ne fait pas de vagues. Deuxièmement, pour ma mère. Pas de commentaires sur autrui. On reste chez soi. Et que ce soit dans le cadre du quartier, ou dans le cadre de l'Église, très rapidement, et assidûment fréquenté, on ne fait pas de vagues. Et les enfants ? Obligation est faite de rester minéralement fidèle au sacro-saint adage mille et une fois répété. Ayez toujours la politesse de votre côté. On ne soutient pas le regard. Vous savez comment j'entends ça ? On baisse les yeux. On ne répond pas. On ne fait pas de vagues. Lorsque j'y pense aujourd'hui, je me dis que peut-être le but n'était pas de ne pas faire d'histoire avec un S à la fin, mais surtout, de faire oublier qu'on en avait une. Ainsi, les années, puis les décennies passant, du statut d'étranger malvenu, ces braves gens devinrent d'honnêtes personnes d'origine espagnole, en paix avec tous, respectant tout le monde et respectés de tous. Alors pour donner dans la formule, on pourrait dire qu'ils ont réussi à faire leur trou. Ils ont réussi à creuser leur trou en respectant rigoureusement, en appliquant à la lettre et au quotidien un code de belle et de bonne conduite.